Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.
Merci d'être avec nous dans Essentiel au lendemain de la commémoration du Vélodrome d'hiver, du Veldiv et cette journée hier et ces commémorations que vous avez pu suivre sur notre antenne. Nous allons continuer aujourd'hui avec deux livres, vous allez le voir, très différents, un livre de témoignage et un roman. Dans quelques minutes, nous serons en compagnie de Thierry Mogenet pour parler de Dans l'ombre de Cézanne, la résistance à Château Noir. Mais tout d'abord, nous sommes en compagnie de Myriam Spira. Myriam, bonjour.
Bonjour Sandrine.
Merci d'être avec nous. L'envol de la mémoire, c'est paru il y a quelques semaines aux éditions Grasset. Ce livre absolument bouleversant, Myriam, raconte votre histoire, plutôt l'histoire de vos parents, mais à travers vos parents, c'est évidemment la vôtre. Ce n'est pas simple d'être l'enfant d'un rescapé des camps, écrivez-vous, et encore moins d'être l'enfant de deux rescapés. À quel moment, Myriam, Spirale, enfin, vous le dites dans le livre, on comprend que c'est au moment où malheureusement votre père décède, que vous allez commencer à prendre conscience du fait qu'il va falloir raconter.
En réalité, moi, ça m'est venu déjà dès l'âge de 12 ans. J'ai toujours su que j'ai rencontré l'histoire de mes parents. J'aime écrire. Et quand mon père est décédé en 95, ça a été un déclic. Je me suis dit, oh là là, là, il faut que je m'y mette. Et j'ai attaqué le sujet avec, dans l'idée de départ, et c'était vraiment le fil rouge, de raconter son histoire, l'histoire de ma maman, et ensuite, nous, la deuxième génération. C'est pas spécialement égocentrique, mais je pense que c'est un sujet tellement actuel, plus de 80 ans plus tard. Et donc, l'idée, c'était d'en venir à la deuxième génération, mais de bien décrire ce que mes parents avaient traversé pour comprendre les stigmates ancrés en nous.
Vous dites, dès le début du livre, Myriam Spira, « Je tenais à empêcher que ce pan de l'histoire avec un grand H, et surtout celui de notre famille, ne se dilue au fil des décennies dans le brouillard de souvenirs vagues, biaisés ou déjà erronés par l'ignorance. Ces souvenirs, c'est ceux que vous ont racontés vos parents, parce que, contrairement à certains anciens déportés qui se sont tus, vos parents, eux, ont parlé, ils vous ont raconté ?»
Oui, en fait, mes parents se sont rencontrés après leur retour de déportation et ils se sont compris immédiatement, sans filtre. Ils en parlaient énormément entre eux. Et puis quand les enfants sont nés, nous sommes cinq parce que chez mon père, ils étaient cinq et qu'ils voulaient redonner cinq vies. Et en fait, je me rappelle du repas dominical, c'était systématique. Il y avait mon papa à gauche, ma maman à droite en tête de table, et nous les cinq autour de la table, dans un silence religieux, on écoutait, on entendait, on écoutait leurs récits, et chacun renchérissait une horreur sur l'autre, et ça parlait, mais tout le temps des camps. Tout rapportait au camp, et même dans le quotidien, on finit pas le pain, on finit le pain de la veille ou de l'avant-veille avant de commencer le pain du jour, on ne jette rien, on garde les petits élastiques, on garde les liens du pain acheté en grande surface, etc., etc. Donc, c'était omniprésent. Et eux, leur récit également était omniprésent. En fait, tout ramenait au camp, sans arrêt. Voilà.
C'est traumatisant pour des enfants.
Je pense que c'est insidieux. C'est-à-dire que moi, ma mémoire me ramène à l'âge de 5 ans. Et comme je dis toujours, aussi loin que ma mémoire me ramène en arrière, j'ai ces souvenirs-là. Et un enfant a enfin, tout est vierge chez l'enfant, il y a tout à fait. Et quand il racontait les scènes qu'il décrivait, moi, je sentais qu'elles étaient imprimées ici, sur l'écran de mon cerveau et en même temps de ma mémoire, bien évidemment. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on est un enfant et que c'est la norme. Donc, on grandit avec ces faits et ces descriptions. Et on ne comprend pas, tant qu'on est enfant, on ne comprend pas que ce n'est pas normal. Il faut grandir, mûrir, acquérir la maturité, se confronter à d'autres gens, en l'occurrence des copines de classe quand j'étais enfant, et puis jeune ado, et puis ado. Et il a fallu une vie, en fait, pour prendre conscience que ce n'est pas vraiment normal et qu'on a droit à autre chose que ces descriptions et que ce fardeau, parce que c'est un réel fardeau en fait. Bon. Mais on ne s'en rend pas compte, on aime ses parents, on vit avec ça, on grandit avec ça, et voilà.
Au point, effectivement, et vous le racontez, Myriam Spira, vous dites « Nous sommes cinq parce que vous étiez cinq ». Et vous racontez qu'en fait, chacun de vos frères et sœurs et vous-même, vous portez un prénom, soit le prénom direct d'un des frères et sœurs de votre père, soit vous, vous portez le deuxième prénom de sa sœur aînée.
Oui, voilà, absolument. En fait, ils étaient cinq chez mon père, trois filles de garçons. Le hasard veut que nous soyons également trois filles de garçons. Et il y avait un beau-frère également, puisqu'une de ses sœurs était mariée et enceinte quand elle a été déportée. Et son père, donc mon grand-père paternel, a été déporté avec la deuxième rafle à Anvers, en Belgique. C'était le 29 juillet 1942, ou le 29 août. Ouh, là, tout à coup, j'ai un doute. Non, c'était le 7 juillet. Et en fait, la seule personne qui a été sauvée, en dehors de mon père, c'est ma grand-mère qui a été fâchée.
Louise.
Et voilà. Et en fait, le premier enfant qu'ils ont eu, c'était ma sœur aînée qui est née en 1948. Ils l'ont appelée Hélène comme sa sœur aînée. Et quand mon père a réalisé l'effet que ça faisait à sa mère, chaque fois, il disait « Hélène, viens ici, Hélène, Hélène ». Il a compris qu'il ne pouvait plus donner en premier prénom les prénoms de ses autres frères et sœurs. Donc, c'est en second prénom que les quatre autres, on a hérité d'un des noms de ses frères et sœurs. Voilà.
Alors, on va raconter, vous allez nous raconter, Myriam Spira, le parcours de vos deux parents, de Betty et de Joseph. Mais effectivement, vous le disiez, votre grand-mère, elle, a été sauvée. Et Joseph a été le seul enfant, le seul de ses cinq enfants à être sauvé. Et vous dites, à son retour des camps, Joseph, son cadet, n'osa lui raconter l'indicible. Au début, son silence éveillait en elle cet espoir fou que, tout comme lui, un prochain jour, l'un de ses quatre autres enfants débarquerait lui aussi.
Absolument, oui. Il n'a pas osé lui dire, mais au fil du temps, elle a compris. C'est le seul qui est survécu, c'était le cadet. Et il a survécu aussi parce que, entre autres, bien entendu, parce que pour survivre là-bas, il fallait une force de caractère et un mental d'acier. Il ne fallait surtout pas se laisser aller de ce qu'ils ont raconté. Et aussi, et ça a joué quand même un grand rôle, mon père était violoniste.
Oui.
Les Allemands aiment la musique et ça l'a aidé à plus d'une reprise, en fait. Voilà.
Alors, on va parler de votre maman, Myriam Spira, dont vous parlez dans ce livre, L'envol de la mémoire, chez Grasset. Votre maman, c'est Betty. Elle avait 21 ans lorsqu'elle a été arrêtée à Bruges. Elle était résistante.
Absolument, voilà. Elle était la seule fille dans un réseau de résistance qui s'occupait de récupérer des pilotes anglais et américains qui avaient été abattus par les Allemands. Et comme elle était près de la côte belge, le long de la Manche, en fait, le réseau récupérait donc ces pilotes. S'ils avaient été blessés, ils les soignaient, bien entendu, en cachette. Et ensuite, ils les rapatriaient avec un dinghy durant la nuit vers un bateau qui mouillait au loin de la côte, et qu'il rapatriait à Londres. Et donc, ce réseau a été démantelé parce qu'il y a eu un traître qui a trahi tout le réseau. Donc, ils ont tous été arrêtés. Et puis, ils ont bien entendu été enfermés, torturés. Ma maman l'a été aussi. Elle a subi vraiment des sévices graves. Et ensuite, ils ont été conduits, mais étape par étape, vers Berlin pour un procès. Mais quand je dis étape par étape, elle était affublée de ce qu'on appelle « Nacht und Nebel », donc « nuit et brouillard » en français. Voilà, et donc, excusez-moi. Et donc, il y a eu le procès à Berlin qui a été expédié en 10 minutes. Elle raconte toujours qu'ils étaient en toge rouge avec la fourrure blanche. Et au bout des 10 minutes, le verdict est tombé. Tous les hommes étaient condamnés à mort. Ils ont été, quelques mois plus tard, assassinés à la hache, toutes les 6 minutes. Et elle, en tant que femme, a été exemptée de cette peine. Et donc, elle a été déportée vers les camps de Mauthausen et Ravensbrück.
Elle est restée combien de temps là-bas? Elle a resté jusqu'à la libération.
Oui, en fait, pas exactement. C'est-à-dire que le périple de prison en prison a duré des mois et des mois et des mois pour finalement arriver d'abord à Ravensbrück. Et quand le front russe est arrivé par le nord, les nazis se sont enfuis en menant ces femmes vers Mauthausen, qui en fait était un camp pour hommes. Donc ça a été très compliqué. Qu'est-ce qu'on fait avec ces femmes? Donc elles ont été parquées dans un hangar tout au fond de la carrière de Mauthausen. Et au total, en fait, ma mère a été déportée à peu près 3 années je sais, 1145 jours, je pense, quelque chose comme ça. Et mais donc, comme je dis bien, c'était de prison en prison, dans l'isolement total, avec son statut de Nartounneb. Elle était totalement isolée. Et dans ses prisons, elle devait rester debout, elle tournait en rond toute la journée. De quoi devenir folle, hein, vraiment. Et elle aussi, elle avait ce mental d'acier, oui, qui fait qu'elle a tenu. Et malgré aussi les tortures qu'elle a subies, et à Ravensbrück, elle a subi des expériences, enfin, en tout cas, une fois, les expériences médicales pour la stérilisation. Et donc, quand ma sœur est née en 48, ils se sont vraiment posé la question si elle serait normale, si elle allait avoir... Ils ont compté qu'elle avait 5 doigts de pied. Et voilà, c'était un bébé qui maigrissait. Et ils ont amené un curé, ils étaient en Afrique du Sud à l'époque, et à la maternité, ils ont voulu amener un curé pour extrême-onction parce qu'ils ont dit que ce bébé ne vivra pas. Donc voilà, ça a été très compliqué.
Alors ça, c'est du côté de votre maman, Betty, du côté de votre père, Joseph, lui, juif et résistant également. Lui, eh bien, alors ils ne se connaissent pas, hein, à l'époque, vous l'avez expliqué, évidemment, ils se connaissent après la guerre, mais avec des parcours assez similaires. Lui, il va être déporté à Auschwitz-Birkenau, violoniste. Vous racontez effectivement dans le livre une ou deux fois où, eh bien, ça a pu l'aider et le sauver. Et vous racontez également, comme il vous a raconté, ces moments terribles de faim, de froid. À un moment donné, Yvette, les nazis vont l'enterrer sous la neige. Il va avoir le réflexe de tout de suite laisser un petit espace pour pouvoir respirer. Et là, il va ressortir de là dans un état totalement déplorable, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui. Absolument, c'est vrai. Et moi, toute ma vie, je me rappelle que mon père avait des toux effarantes à un point tel que ça nous agaçait tellement il toussait. Mais ça veut dire, c'était vraiment les poumons, quoi. Hein. C'était terrible parce que donc effectivement, les poumons étaient brûlés dans la neige. Et comme vous dites, il a eu le réflexe de garder cette bulle d'air en mettant ses coudes sous son front. Et quand on l'a déterré... Les soldats pensaient vraiment qu'il serait mort, et en fait, voilà. Et il a eu pas la tuberculose, ça y est, le nom m'échappe, la maladie des poumons. Et voilà, et je ne comprends pas comment il a tenu, parce qu'il avait 40 degrés de fièvre, et c'était... Je ne sais pas comment mes parents ont tenu, mais moi je dis que ce sont des surhommes, quoi. Enfin, tous ceux qui sont rentrés des camps sont des gens exceptionnels.
Sont des héros. Vous le dites d'ailleurs au début du livre, à un moment donné, vous dites j'étais une fille de victime, et en écrivant, aujourd'hui ils sont omniprésents en moi et je ne suis plus fille de victime. C'est le fait d'avoir écrit leur histoire qui a provoqué aussi ce changement en vous.
Oui, absolument. Pour l'anecdote, je dois dire que, en fait, au départ, j'avais écrit un manuscrit qui a abouti par hasard chez Grasset, et c'est comme ça que Grasset a voulu l'éditer. Mais au départ, dans le manuscrit, j'avais écrit ça pour moi-même, pour me donner une chance de me délester de cet héritage qui est vraiment lourd. Et aussi, je voulais laisser une trace à ma fille et neveu et nièce. Et j'écrivais toujours dans l'avion entre Bruxelles et Tel Aviv ou au retour. Et je me rappelle très bien qu'un jour... J'ai repris mon écriture, et en me relisant, je terminais un paragraphe et je me dis, mais mince, mes parents, ce ne sont pas des victimes. Ah. Moi, j'avais toujours eu l'impression d'être victime, et finalement, non, pas du tout. Je comprends à quel point ce sont des vainqueurs. Avoir résisté à tout ça, tenu au travers de tout ce qu'ils ont vécu, survécu, je pense que c'est exceptionnel, malgré qu'il y a eu beaucoup de survivants, enfin beaucoup, sur 6 millions, on ne peut pas décerner beaucoup, mais enfin, ce ne sont pas les seuls.
Alors, on l'a dit, Myriam Spira, votre livre, c'est aussi toute une réflexion sur la deuxième génération, et vous écrivez après-guerre et même plus tard, on ne parlait pas encore du syndrome post-traumatique, on ignorait tout, du transgénérationnel et de l'épigénétique. Or, le regard que la deuxième génération porte sur la vie est souvent décalé, imprégné du flot de ces images devenues obsessionnelles, de pensées morbides récurrentes et de bien d'autres comportements biaisés que l'on est incapable d'expliquer. un peu avant, vous racontez aussi les pensées que vous avez quand vous êtes enceinte de votre fille, où en permanence, vous vous dites qu'est-ce qui arriverait si ça arrivait maintenant, alors que je suis enceinte, ou alors quand le bébé est tout petit, comment j'agirais, comment je ferais, comment je la cacherais. C'est des pensées en permanence, ça.
Absolument, absolument. Et c'est ça que je dis qui est absolument pas normal, c'est ce type de pensée. Quand on est enceinte, quand on accouche, c'est le grand bonheur. Et moi, ça a été un des plus grands bonheurs de ma vie, donner naissance à ma fille. Mais effectivement, pendant toute la grossesse, c'est quelque chose qui m'a obsédée. Je pensais tellement à la sœur de mon père qui était à Birkenau. Et toutes les scènes avec lesquelles j'ai grandi, que mes parents racontaient quand une femme arrivait enceinte et puis qu'elle accouchait, et ce que les amants faisaient du bébé. Enfin, je ne suis pas sûre que j'ai envie de le dire ici en radio, parce que c'est tellement traumatisant, ouais, et tellement choquant. J'en parlais dans le livre, mais effectivement, et moi, bon, le livre est édité maintenant chez Grasset, mais quand j'allais terminer mon manuscrit, je voulais que ma fille l'ait, et je lui ai dit, tu ne dois pas le lire, tu le lis quand tu veux, que tu aies 30 ans, 50, 60, 80 ans, ça m'est égal, du moment que la trace soit là. Et je suis contente qu'elle n'ait pas grandi avec les témoignages. D'ailleurs, quand elle était petite, moi, la partie qui m'émeut le plus dans le livre, c'est la toute fin où j'écris à ma fille en lui disant « tu avais 5 ans » et toutes les semaines, le mercredi, j'allais te chercher à l'école vers 13h, puis je la déposais chez ma maman. Et je lui dis, ce jour-là, on est revenu le soir, donc je retournais au bureau, puis le soir, j'en ai avec mon mari et on mangeait ensemble à quatre. Et ce jour-là, ma maman m'a demandé, m'a dit, tu sais ce que ta fille m'a demandé aujourd'hui? C'était le jour de Yom HaShoah, en fait, à l'école, et la sirène avait retenti. Elle avait 5 ans, elle a pris la main de ma maman et lui a dit, Betty, raconte-moi ta Shoah. Et j'ai demandé à ma maman, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, je lui ai dit, demande à ta maman. Et je dis, tu as bien fait, je t'interdis de lui raconter quoi que ce soit. Le moment venu, elle apprendra. Et l'école a fait son job à 16 ans. Ils ont fait le voyage des camps. Et ensuite, ils sont venus en Israël pour Yom HaAtzmaout. Comme ça, ils terminaient sur cette note extrêmement positive, quoi. Ouais. Mais le livre est vraiment à propos de la deuxième génération.
Oui.
Vraiment, c'est important.
Oui. Vous êtes pilote, Myriam Spira, et vous racontez également dans le livre, et puis je pense que le titre du livre est dû aussi à cela, vous racontez aussi ces vols assez particuliers que vous avez effectués.
Oui, effectivement. En fait, je suis pilote privé, hein. Une pilote professionnelle de ligne. Et en fait, moi, j'avais fait le voyage à Auschwitz 3 fois avec l'agence juive de Bruxelles. Et ensuite, je n'étais jamais rendue dans les camps de ma maman, donc Mauthausen et Ravensbrück. Et un beau jour, à mon club d'aviation, on m'a demandé si j'étais d'accord d'amener l'avion pour une certification en République tchèque. Et j'ai regardé où se trouvait le lieu où je devais me rendre. Et puis, je me suis rendue compte que c'était vraiment sur le chemin. Il fallait traverser la France, l'Allemagne, l'Autriche et puis rejoindre la République tchèque. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, je passais tout près. Je pouvais atterrir à Linz. Et Linz est à, je pense, une quarantaine de kilomètres de Mauthausen. Et donc, j'ai pris le temps de faire ce voyage. Au lieu de le faire d'une traite, je l'ai fait en 2 jours. Mm-hmm. Et donc, j'ai atterri à Linz et je me suis rendue à Mauthausen. Et là, j'ai eu droit à une guide tout à fait privée en tant que fille d'eux. Et elle était très surprise de toutes mes questions parce que je connaissais tellement de choses, entre autres, où sont les hangars? Elle me dit, mais quel hangar? Je dis, les hangars où on a parqué les femmes. Elle me dit, mais comment tu sais? Alors, je l'ai dit. Et puis, on est descendu dans la carrière avec les 186 marches parce que ça aussi, j'ai grandi avec ce chiffre, les 186 marches de Mauthausen. Et puis, elle m'a conduit dans des herbes folles, avec des orties. C'était au mois de juin. Et donc, elle me dit, tu vois, là, par terre, le béton, ça, c'est les restes des hangars. Eh bien, j'étais très émue de fouler ce béton difficilement perceptible au fond des grandes herbes, des hautes herbes. Et j'en ai fait des photos, voilà. Tout ça, ça se trouve dans le manuscrit. Dans le livre, bien entendu, il n'y a pas de documents. Ça, c'est la politique de Grasset, c'est un texte au kilomètre. Et voilà.
pour conclure, Myriam Spira, effectivement, à la fin du livre, il y a ces très jolis mots que vous envoyez à votre fille, qui s'appelle Avaya. Là, vous, par contre, vous avez choisi un prénom, évidemment, israélien, et un prénom qui ne faisait référence, j'imagine, à aucun autre personnage passé de la famille.
Non, pas du tout. C'est Havaya, Hei Vav Yud Hei. C'est un anagramme du nom de Shem Hashem, en fait. Voilà. Et donc, qui inclut le passé, le présent et le futur dans une entité. Dans l'hébreu moderne, Havaya, c'est une entité. C'est ça que ça veut dire. Havaya, Shel Mashu, c'est là, l'entité de telle ou telle chose. Et donc, Hei Vav Yud Hei, c'est un anagramme. Et elle porte très bien son nom. Et j'imaginais. Nous n'imaginions pas que nous aurions une seule fille, qu'elle serait unique. Et en fait, on lui a donné un prénom unique comme le nom de chez ma chaîne, qui est unique. Voilà, j'aime cette idée.
Et on l'aime également. Et ce livre est vraiment un témoignage à la fois bouleversant et en même temps qui va amener, j'imagine, bon nombre de personnes comme vous, de la deuxième, voire même la troisième génération, à se poser aussi beaucoup de questions et à trouver les moyens de pouvoir sortir aussi, si tant est qu'on puisse en sortir de ces traumatismes. Dernière question, Myriam Spira, vous vivez à Bruxelles, dans une ville, on le sait, comme en France, comme en Europe, hein, un petit peu partout. Je ne dis même plus résurgence de l'antisémitisme parce que le mot est encore bien faible. Comment vivent les Juifs de Bruxelles aujourd'hui ?
Écoutez, c'est très varié selon les gens. Les uns ont peur, les autres ont la tête haute. Les uns se cachent, les autres ne se cachent pas du tout. Et moi, personnellement, je n'ai pas du tout été confrontée à quoi que ce soit. Mais c'est vrai que bon, ce n'est pas écrit là non plus, mais c'est vrai que tout a changé. Enfin, c'est personnel, moi, j'ai eu maintenant temps de partir parce que je crois que c'est hopeless. On est trop loin, on est trop loin. Et l'invasion, elle est à tous les niveaux, notamment chez vous, c'est des mairies, chez nous, ce sont des communes. C'est partout. Donc, voilà, je n'ai pas énormément à dire. On voit bien, c'est toute l'Europe. Bruxelles, c'est fini. Londres, c'est fini. Paris, vous n'êtes pas en veste. Hein. Paris, Oslo, enfin, tous les pays d'Europe. Voilà. C'est une période très, très compliquée. On se pose quand même beaucoup, beaucoup de questions. Et moi, je ne compte pas du tout rester en Belgique. Certainement pas. En tout cas, ce que je voulais dire, pour revenir à ce que vous disiez juste avant, j'aimais bien votre commentaire. Et j'insiste vraiment pour l'auditeur que ce n'est pas un énième livre sur la Shoah.
Non, non, c'est un livre différent.
Passé par le récit. Voilà. Et c'est vraiment sur le présent. Et je pense que ça parle à beaucoup de gens. Je vais régulièrement en Israël et j'en parle avec des gens de ma génération, plus ou moins. Et tous le disent que c'est vraiment un sujet chaud, je veux dire actuel. On est tous remplis de stigmates dont on n'avait pas toujours conscience. Et quand on parle et qu'on compare, on se dit « Ah oui, bah oui, moi aussi ou, ». Enfin, des choses qui nous paraissent évidentes, mais qui sont différentes du tout un chacun, en fait. Voilà.
Merci beaucoup, Myriam Spira. L'envol de la mémoire, à lire, effectivement, absolument. Et c'est aux éditions Grasset. Merci, Myriam Spira.
Merci infiniment, Sandrine. Je suis très touchée d'avoir été invitée. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir. On va marquer une petite pause musicale et on va se retrouver tout de suite après. On va parler de la résistance, cette fois, et de la résistance à Château-Noir, dans l'ombre de Cézanne, avec Thierry Mogenest. À tout de suite.
Un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme
apprenait les voix, chantait les grenouilles et les princesses comme tout voix. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna, surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être un garçon comme toi, 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 comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui nous rendons à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi.
Jean-Jacques Goldman sur RCJ. On va parler à présent avec Thierry Mogenès du livre « Dans l'ombre de Cézanne, la résistance à Château-Noir », un roman paru aux éditions Hervé Chopin. Thierry Mogenès, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en visio, j'ai presque même l'impression de voir... Vous êtes dans la région d'Aix-en-Provence, c'est ça ?
Oui, oui, je suis à Aix-en-Provence, dans le sud, où la canicule sévit toujours.
Toujours, si vous voulez. On a même l'impression de quasiment d'entendre les cigales. On va parler de cette région, on va parler de Château-Noir, avec ce très beau roman que vous avez écrit. Vous êtes romancier, essayiste, Thierry Mogenès. Vous avez publié une trentaine d'ouvrages, dont certains ont été traduits. Vous êtes donc dans cette campagne aixoise, et ce livre, c'est le fruit de plusieurs années de recherche sur les œuvres de Cézanne et le mystère de Château-Noir. Vous avez publié l'an dernier, toujours aux éditions Hervé Chopin, ce qu'on appelle un beau livre, Cézanne à Château-Noir. Et donc là, c'est ce roman qui se déroule en juillet 43. Alors, vous allez nous raconter d'abord Château-Noir, qu'est-ce que c'est et comment vous en avez entendu parler.
Alors, Château-Noir, c'est un domaine très secret qui se trouve au pied de la montagne Sainte-Victoire. Qui a toujours été entouré de légendes depuis le 19e siècle. Et alors, comment j'en ai entendu parler ? C'est très simple, parce que quand on s'éloigne d'Aix, en sortant vers la petite route qu'on appelle la route du Tolonnais, on aperçoit dans les bois, dans la pinède, des fenêtres gothiques. On pense à une architecture religieuse, mais c'est bien le domaine de Château-Noir. Et ce domaine, il a fasciné beaucoup d'Aixois, dont le jeune Zola, dont le jeune Cézanne. Et Cézanne, à la fin de sa vie, les 15 dernières années de sa vie, s'y est installé pour peindre sans doute ses toiles les plus célèbres.
Donc c'est là où il a peint, comme vous dites, les toiles les plus célèbres. Et c'est là où il a pu trouver, j'imagine, un certain calme et une certaine quiétude propre à la peinture et propre à pouvoir travailler.
Oui, mais c'est exactement ce qui est recherché à Château-Noir, parce que Château-Noir, c'est un domaine qui s'étend sur de très, très nombreux hectares. et qui est, je le disais en préambule, qui a toujours été très, très secret, très bien gardé, par la même famille d'ailleurs, qui depuis le 19e siècle se transmet le domaine de père en fils, de mère en fille. Et c'est sans doute ce qu'il est venu rechercher, cette quiétude, parce que précisément dans mon roman, je présente Cézanne en méditant, en quelqu'un qui a besoin de se nourrir du silence, de la méditation, un être quasi mystique. Alors, ce n'est pas moi qui invente ce terme, hein. On le retrouve chez Gauguin, on le trouve chez beaucoup de contemporains qui ont vraiment approché Cézanne et qui avait besoin de ce recueillement avant d'avoir l'étincelle qui lui permettait de peindre. Et oui, vous le dites si bien, Château Noir lui a permis cela parce qu'il y avait ce silence et cette solitude.
Alors, Château Noir, justement, ce lieu, le livre, alors c'est un roman, on est d'accord, Thierry Mogenet, mais tout est réel ou presque, à part, je crois, l'histoire du carnet que vous allez nous raconter, mais évidemment, tout le fond historique et les personnages également, ils ont tous réellement existé ?
Oui, bien sûr, ils ont tous existé, c'est-à-dire que je vous parlais de Château Noir, qui est une demeure d'artiste, et quelques décennies après la mort de Cézanne, en 1906, des premiers très grands artistes du monde entier sont venus s'y installer. C'est, secrètement, hein, cette histoire n'avait jamais été révélée avant mon livre. Ils sont venus des États-Unis, de Russie, d'Italie, enfin du monde entier. Et notamment, à partir de 1940, des artistes parisiens, allemands, bretons sont venus s'installer à Château Noir. Certains vont continuer à peindre, à se dédier à 100% à la peinture, ignorant la guerre. Je ne dis pas qu'ils y étaient insensibles, mais ils ne sont pas rentrés dans la résistance. Et d'autres artistes, des femmes surtout, ont mis leur carrière de peintre entre parenthèses, je pense à Marguerite Matisse, l'immense Marguerite Matisse, pour se consacrer totalement à la résistance. Et c'était donc chez Cézanne, et c'était tous des peintres qui sont pas venus là par hasard, qui étaient, oui, tous amoureux et très influencés par Cézanne.
Alors, le livre est fait d'aller-retour entre finalement cette période de l'époque de Cézanne et 1943. Est-ce que vous voulez bien nous raconter quelques-uns de ces personnages, Thierry Mogenès, qui sont donc les héros du livre et qui sont donc des résistants? Il y a notamment Léo Marchoutz, il y a Pierre Talcoat, il y a Francis Tailleux. Je vous laisse nous parler de deux ou trois ce que vous souhaitez.
Oui, vous avez parlé des hommes. Léo Marchoutz a été le premier qui a fui l'Allemagne pour arriver et se cacher à Château Noir. Et lui, il a passé toutes les nuits de peur d'une arrestation. Il a passé toutes les nuits pendant de la guerre dans le domaine, c'est-à-dire en dormant dans les grottes de Château Noir, été comme hiver. Oui, il y a le grand peintre Talcoat, Francis Tailleux, que vous avez évoqué, et qui étonnamment, aujourd'hui, a été un peu oublié de l'histoire de l'art, mais dans les années 30, c'était le peintre le plus en vue, le plus connu. Ses amis étaient Giacometti, Matisse, Picasso, et c'était lui qui avait cote la plus grande. Mais ensuite, après Château Noir, Il s'est laissé totalement hanté par Château Noir et il n'est plus reparti faire le jeu des galeries, des expositions, etc. Et sa cote a été oubliée. Mais les personnages principaux, j'ai parlé de Marguerite Matisse. Il y a aussi un peintre aixois qui s'appelle Gabriel Lorrain, qui est un très grand résistant et un très grand peintre. Mais l'héroïne principale, c'est Eline Forbes. Eline Forbes, qui est une jeune Anglaise d'origine américaine, qui a été un personnage exceptionnel. Moi, en tant que romancier, je rêve de trouver des personnages comme ça. Elle a été la première femme pilote, une grande navigatrice, une très grande joueuse d'échecs. Et elle s'est ensuite consacrée à la peinture. Et quand elle arrive à Château Noir, elle va se consacrer totalement à la résistance. Elle est en lien avec Londres et elle va accomplir des actes héroïques, sauvant notamment une famille juive, et elle sera déportée pour ses actes d'héroïsme dans la résistance.
Alors, la plupart, évidemment, de ces peintres ont un rapport avec Cézanne et une admiration. Vous racontez, par exemple, Léo Marchaud, dont on a parlé. Vous dites, 10 ans plus tôt, c'est à Munich que Léo vit son premier Cézanne. Aussitôt, le monde autour de lui se mit à basculer. Ce jour-là, sans qu'il puisse encore l'exprimer, il eut la conviction qu'il ne s'agissait pas seulement de peinture, c'était autre chose. Il y avait là une présence, un souffle. Ce n'est pas un homme seul qui a peint cela, pensa-t-il confusément, mais une main guidée, traversée, quelque chose de plus vaste, de plus ancien, s'était exprimé à travers lui.
Ah, je vous remercie de citer cet article, parce qu'il y a vraiment une phrase qui... Enfin, cet article, pardon,
ce passage
de mon roman. Parce qu'il y a vraiment un mot qui peut résumer tout le travail que j'ai fait ces dernières années. Marchoud dit... ça n'est pas simplement de la peinture, il y a autre chose. Et ces 4 dernières années, lorsque j'ai découvert les archives de Château Noir et que j'ai commencé à travailler sur toutes ces personnes, ces grands philosophes, ces grands écrivains, ces grands peintres qui sont venus à Château Noir, tous ont eu une fascination pour Cézanne, mais une fascination qui dépassait le cadre esthétique, qui dépassait même le cadre de l'art.
L'admiration, oui, c'est au-delà.
Mystique, et tous ont écrit des passages qui nous interrogent parce qu'ils sont totalement irrationnels. Je pense à Heidegger qui dit que Cézanne ouvre une nouvelle voie pour l'humanité, donc il ne parle pas de l'art. Rilke dit que le monde bascule à partir de Cézanne, il y en a avant et après Cézanne dans l'humanité. Tous ces grands artistes, Peter Handke, qui est prix Nobel de littérature, qui va venir également ici, lui, il parle de Château Noir comme du centre du monde. Et ou Jacqueline de Romilly, l'académicienne, l'helléniste, qui parle d'une aura de sortilège qui règne autour de Château Noir sur le souvenir de Cézanne. Donc, il y a quelque chose d'ésotérique dans mon roman, mais vous disiez que tous les personnages étaient réels, que l'histoire... Cette histoire de la Shoah dans le Sud est réelle. Tous les personnages ont existé, mais finalement, même ce côté ésotérique a existé, puisqu'il y a quelque chose d'irrationnel qui relie des générations à Cézanne sans qu'on sache exactement pourquoi leur vie a basculé, pourquoi certains ont tout laissé tomber dans leur vie à l'autre bout du monde pour se consacrer à Cézanne dès qu'ils ont vu un premier tableau. Donc ça, c'est de l'irrationnel, mais c'est de l'histoire aussi.
Alors, dans le livre, dans l'ombre de Cézanne, Thierry Mogenès, chez Hervé Chopin, il y a donc cette histoire romanesque, on l'a dit aussi, et ce carnet qui va bouleverser le cours de leur existence, ce carnet ayant appartenu à Cézanne, et cette famille juive pourchassée par Vichy qui va frapper à leur porte. Ça, c'est romanesque, le carnet de Cézanne.
Alors, le carnet... Oui, vous l'avez très bien dit, tous les faits sont réels. Alors, le carnet, c'est le seul élément qui est imaginaire. Mais là encore, j'ai envie de dire, c'est une sorte de symbole de quelque chose qui a existé.
Oui,
parce que
passage.
Cézanne lui-même, dans les derniers jours de sa vie, écrit à son fils, il est à Château Noir, il écrit « J'aurai, je le sens, des continuateurs ». C'est ce terme qu'il emploie. D'autres viendront pour achever ce que je n'ai pu faire. Donc lui, dans ses derniers jours, il est tout le temps en contact avec les peintres qui vont venir. Il en parle, il est très proche de certains jeunes peintres. Et dans l'autre sens, les peintres qui sont venus à Château Noir s'installer ici en 1940, sont tous reliés intimement à Cézanne, c'est-à-dire que leur première toile, ils posent leur chevalet à l'endroit même où Cézanne a posé le sien. Donc, il y avait ce lien qui allait dans les deux sens, et ce lien, ben, je l'ai symbolisé, cristallisé autour d'un carnet qui fait ce passage entre ces deux générations de peintres.
Alors, avec, vous l'avez dit, cette femme, Marguerite, qui a un courage extraordinaire. Vous racontez vers la fin du livre les tortures qu'elle a subies, les viols, les coups, les poings, la torture avec de l'eau. Et malgré tout cela, eh bien, non seulement elle ne parle pas, mais elle provoque aussi les nazis en leur disant combien de temps déjà ça devait durer votre fameux Reich, 1000 ans, 3 mois, voilà ce que je lui donne. C'est incroyable comme caractère et comme force de caractère.
Ah, les deux personnages féminins de mon roman ont une force absolument incroyable. Ouais. Marguerite Matisse, c'est, j'ai envie de dire, une des grandes oubliées de l'histoire, parce que comme Jean Moulin, elle était à la tête d'un réseau, elle connaissait tous les noms, toutes les adresses, et elle a été torturée pendant des jours et des nuits. Elle n'a pas lâché un seul mot avant d'être jetée dans le dernier train qui allait partir pour Birkenau. Et cette héroïne historique a été oubliée, même la peintre, parce que dès 1914, oui, elle a un atelier dont on parle beaucoup, et aujourd'hui, lorsque sur un moteur de recherche, on cherche...
Quand vous cherchez Matisse en plus, oui.
Voilà, vous avez des portraits de Marguerite Matisse, mais faits par son père, qui sont très beaux, qui n'enlèvent rien, je ne veux rien enlever à Henri Matisse. Non. Mais les œuvres de Marguerite Matisse ont été, elles aussi, oubliées, comme son rôle pendant la guerre. Et l'autre héroïne, bah, c'est Hélène Forbes Tailleux, puisqu'elle épouse le peintre Francis Tailleux. Et elle aussi a une force de caractère incroyable, parce que j'ai retrouvé le procès-verbal de son arrestation, et tout comme Marguerite Matisse, puisque les gendarmes d'Aix ont cité ces mots, et elle les provoque, elle leur dit « Mais pourquoi, textuellement, elle leur écrit, pourquoi ne démissionnez-vous pas en zone occupée ? Beaucoup de gendarmes ont démissionné, ce que vous faites est inhumain. » C'est-à-dire que pendant son interrogatoire, elle va continuer à les provoquer, et sur la photo d'elle qui est prise, que je reproduis à la fin du roman, et qui est prise au moment de son arrestation comme fiche d'identité, on voit un regard d'une sérénité incroyable. Elle est sûre de son droit, elle a sauvé des enfants, elle a sauvé une famille, et elle sait que c'est elle qui est du bon côté de l'histoire. Il n'y a aucune peur, il y a une très grande dignité, un très grand courage dans cette photo.
Il y a un personnage supplémentaire, Thierry Mogenès, dans le livre. On en a parlé au début, c'est Château Noir lui-même. La maison est un personnage, et à un moment donné, effectivement, l'un des personnages écrit « Château Noir est un refuge, il l'a toujours été, il le sera encore. Un lieu à l'écart du tumulte, fait pour ceux qui ont trop vu, trop perdu, trop espéré parfois, pour ceux que le monde, à force de brutalité, a rejeté vers l'intérieur d'eux-mêmes, là où la création est le dernier recours. » C'est un personnage à part entière, la maison.
Oui, vous avez totalement raison. Moi, j'ai été très influencé comme auteur par les romans de Henri Bosco et de Jean Giono, où très souvent, il y a une maison,
oui,
qui est un lieu qui joue le rôle de personnage. Parfois, c'est une forêt, un terrain, un domaine. Mais ces romans-là m'ont toujours hanté. Et j'ai vraiment créé, c'est une très très belle lecture que vous faites, ce roman avec ce personnage de Château Noir. Et d'ailleurs, dans le roman, je le fais parler discrètement. Il y a des volets qui craquent, il y a des planchers qui grincent, des poutres.
Elle parle, la maison, finalement.
Oui, la maison parle continuellement dans sa chaleur, des murs qu'elle renvoie, dans le froid, dans le bruit du vent qui passe. Donc, j'ai toujours essayé d'animer cette maison et de lui donner une âme. Mais d'ailleurs, on n'est pas très loin de la réalité, parce que tous les gens qui aujourd'hui, tous les artistes, tous les écrivains qui vont à Château Noir ont parlé, ont témoigné de cette présence mystérieuse. Et donc... il ne fallait pas beaucoup d'efforts d'imagination pour en faire un personnage.
Pour ceux qui seraient dans la région, en cette saison estivale, Thierry Mogenès, ça se visite aujourd'hui, Château Noir ?
Alors voilà, alors là, c'est vraiment le cœur du problème. Non, non, non,
Aïe,
absolument
aïe,
pas.
aïe.
Ah non, non, c'est l'endroit le plus secret, le plus fermé de France, peut-être. Non, non, ça ne s'est jamais, jamais visité. Du temps de Cézanne, on le disait au début, il y est allé parce qu'il y trouvait un refuge, une solitude. Et non, même pendant les journées du patrimoine, il y a un
Il n'y a
secret
rien à
autour
faire.
de Châtenoir et tous les propriétaires depuis le 19e qui se transmettent le domaine de père en fils tiennent beaucoup à ce secret, à cette solitude. Le domaine est inchangé depuis Cézanne et très certainement il le restera. Et moi-même qui suis aixois, moi-même qui m'intéresse à Cézanne, j'ai mis 50 ans avant de pouvoir y accéder, et encore, il y a eu un concours de circonstances, il y a eu une bonne étoile, mais la plupart des Cézanniens dans le monde n'ont jamais pu y mettre les pieds.
Bon, bah écoutez, ça fait partie du mystère, clairement. Puisqu'on ne peut pas y mettre les pieds, on lit votre livre. Et là, par contre, on y met les pieds, la tête, le cœur. C'est dans l'ombre de Cézanne, la résistance à Châteauneuf, avec une très jolie couverture également. Et c'est paru aux éditions Hervé Chopin. Merci beaucoup, Thierry Mogenest.
Merci beaucoup, Sandrine.
À bientôt et puis profitez pour visiter, si vous êtes dans le coin, cette très belle région quand on a la chance de pouvoir vivre ou visiter la région d'Aix-en-Provence. C'est très très beau. Merci Thierry Mogenest. Au revoir. On se quitte avec une petite pause musicale et évidemment, puisqu'on a parlé de Cézanne, c'était évident, France Gall avec Cézanne Pain sur RCJ.
Silence les grillons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline. Parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse. Sa barbe en bataille.
Anne Pin, la magnifique voix de France Gall. Dans quelques instants, à 12h, vous allez retrouver le journal présenté par Elsa Parienté, Laurence Goldman, Victor Benchimol, avec notamment l'analyse politique de Michaël Darmon. Et avant de se quitter, une dernière pause musicale. Évidemment, soutien absolu, soutien total à Barbara Butch. Vous savez tout ce qui s'est passé samedi soir à Grenoble. Cette honte absolue qui déclenche quelques tweets de politique, mais nous attendons toujours impatiemment. Nous risquons peut-être d'attendre encore longtemps la prise de parole ou ne serait-ce qu'un petit post sur Instagram, une petite story de certains artistes, de tous les artistes d'ailleurs, de même pas certains artistes, de tous les artistes, puisqu'en dehors des artistes juifs, personne n'a réagi à cette honte absolue, cet artiste empêché de se produire à Grenoble par des militants pro-palestiniens et par un élu LFI qui avait appelé à cela et à cette haine contre cette femme que nous soutenons, que nous embrassons, Barbara Butch, qu'on écoute donc en musique faire son travail sur RCJ.
Bitch, you better be joking.
Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.